Les trois chants suivants, identification, drapeau et fragment de début, je vais les présenter un peu plus tard dans la partie fragmentation. Le chant suivant, durée de vie, est un chant sur 8 bits, donc en octet, donc il a 256 valeurs différentes, de 0 à 255. Son intérêt est le suivant. Si vous avez un réseau avec trois routeurs, par exemple ABC, et un paquet doit circuler de A vers C. Donc le paquet, normalement, si tout est bien configuré, le paquet arrive sur A, ensuite A l'envoie à B, B l'envoie à C. Mais si par erreur l'administrateur réseau a configuré B pour que les paquets qui vont vers C soient forwardés, routés vers A, il y aura un gros problème. Le paquet, ce paquet et tous les paquets qui vont de A vers C, en fait, le chemin qu'ils prennent sera A, B, ensuite à nouveau A, B, A, B, A, B, et donc ils ne disparaîtront jamais du réseau. C'est-à-dire qu'ils occuperont de la bande passante pour rien. Pire encore, l'administrateur réseau aura du mal à se rendre compte. Comment on peut voir sur un lien qu'il y a 1% ou 30% du lien qui est tout le temps occupé par le même paquet? Eh bien, pour éviter cela, ce champ durée de vie, ou en anglais TTL, Time to Live, a été créé. Et il fonctionne de la manière suivante. Chaque fois qu'un routeur reçoit un paquet, il décrémente ce champ, la valeur de ce champ, donc il soustrait 1. Par exemple, si c'était 60, il passe à 59. Et si cette valeur est égale à 0, le routeur rejette le paquet et envoie un paquet ICMP à la source, un paquet contenant l'information TTL est égal à 0. Cela veut dire que le problème que j'ai évoqué tout à l'heure sera réglé puisque un paquet ne circulera de A vers B et de B vers A que 60 fois, ensuite il sera rejeté. Par défaut, sous Linux, la valeur de ce champ est 64, et sur Windows, à un moment donné, c'était 128 en fonction de la version. Pour information, on peut se poser la question si une valeur de 64, par exemple, est suffisante sur Internet, alors que, comme vous savez tous, Internet est très grand, il y a beaucoup d'ordinateurs. Eh bien, au début des années 2000, un très grand chercheuse en informatique a mentionné dans un email que le plus grand chemin qu'elle avait jamais vu était de 32 ou 35 hops, donc routeurs. Autrement dit, entre la source et la destination, il y avait 30 et quelques routeurs. En effet, la croissance est exponentielle. Si un routeur est connecté à 10 routeurs et chacun des 10 routeurs est connecté à encore 10 autres, le nombre d'ordinateurs à la fin, c'est 10 puissance la longueur du chemin. C'est une augmentation exponentielle et c'est pour cela que 30 et quelques routeurs sont suffisants, largement suffisants pour la grandeur d'Internet. Le champ suivant de l'entité IP s'appelle protocole supérieur. Et il spécifie, une fois que ce paquet arrive à la destination, à quel protocole de niveau de transport envoyer les données. Puisqu'au niveau de transport, on peut avoir TCP, UDP, ICMP ou d'autres protocoles. Ce champ protocole supérieur correspond à le même effet, la même raison que le champ type de l'entête MAC. Et également, on retrouve ce champ aussi dans l'entête transport, que ce soit en UDP ou en TCP, c'est le port destination, c'est-à-dire à qui en haut envoyer les données. Le champ suivant de l'entête IP est somme de contrôle de l'entête. C'est une somme de contrôle classique, comme on l'a vu dans l'entête MAC. Simplement ici, c'est une somme de contrôle de l'entête uniquement, de l'entête IP. Donc la somme de contrôle ne concerne pas les données. Enfin, il y a encore deux autres champs, adresse source et adresse destination. Ce qu'on peut dire sur ces champs, c'est que c'est des champs de 4 octets, puisque les adresses IP sont de 4 octets. Et on peut dire aussi que ces champs ne changent pas, sauf dans le cas particulier de la natte que nous allons voir plus tard. Enfin, il y a des options qui sont optionnelles. Et ces options, on peut dire que elles prennent un octet qui représente le code de l'option et éventuellement plus. Et surtout qu'un routeur, pour des raisons de sécurité, peut ignorer certaines options. Ce qui fait que de nos jours, à ma connaissance, la grande majorité des paquets n'ont pas d'option IP. Le bourrage, comme je pense que je l'ai déjà dit, il est utile pour faire aligner l'entête sur 32 bits, puisque la longueur de l'entête doit être forcément multiple de 32 bits, donc 4 octets. Je reviens un peu pour faire un exemple transparent 39, faire un petit exercice sur la taille des datagrammes. Nous l'avons vu en TD, si un datagramme, par exemple, si une application souhaite envoyer 50 octets de données, la taille des entêtes est égale à, par exemple, 8 octets l'entête UDP, 20 octets l'entête IP, et puis 6 plus 6, 12, 14, 18 octets l'entête MAC, donc ça fait 18, 26 plus 20. 46 octets. 46 plus 50, ça fait 96 octets. La taille de la trame qui circule sur le réseau, ce que vous captez sur le réseau, ce que le réseau transporte est de 60 et de 96 octets, alors que les données utiles sont de 50 octets. Autrement dit, le rendement de cette transmission est d'environ 50%. Une moitié du réseau, de la capacité du réseau de la bande passante, est utilisé par des entêtes et une moitié pour les données utiles. Autrement dit, si vous êtes connecté à 100 mégabits par seconde, par exemple chez vous, eh bien vous pouvez transférer uniquement 50 mégabits de données utiles. Le reste, c'est des entêtes. Donc l'application, par exemple l'email, Firefox, les jeux, la vidéo, vous transférez un maximum 50 mégabits par seconde, non pas à 100 mégabits par seconde. Bien sûr, le débit utile est encore moins puisqu'il y a aussi des erreurs de transmission et le fait qu'un réseau ne peut pas être utilisé à 100%, mais un peu moins. Donc nous voyons ici qu'il vaut mieux envoyer des paquets où la taille des données est plus grande puisque le rendement sera plus grand. J'arrive au transparent 41 sur la fragmentation. Il y a un autre problème qui doit être traité par IP dont on n'a pas parlé. Je vous rappelle que l'entête MAC Ethernet accepte maximum 1500 octets de données. Cette taille s'appelle MTU, Maximum Transmission Unit. Donc Ethernet a un MTU de 1500. D'autres technologies comme Wi-Fi à une certaine époque avaient 2313 octets, etc. Et le problème que cela pose est le suivant. Si vous regardez sur ce transparent, vous voyez qu'un paquet qui va de gauche vers la machine à droite, supposons qu'elle a mis 1500 octets de données. Bien sûr, comme c'est de l'Ethernet à gauche, le paquet arrive au routeur. Mais le routeur ne pourra pas le forwarder à droite au cas où, par exemple, à droite, il y a un lien où le MTU est égal à 500 octets. Il ne peut pas, ce routeur, forwarder ce paquet de 1500 octets sur ce canal de transmission qui accepte des paquets de taille maximum 500 octets. Et bien, dans ce cas, IP fait de la fragmentation de paquets. Ce routeur, en effet, va découper ce paquet en trois nouveaux paquets qu'on appelle des fragments. Chacun aura son propre entête IP. Et il va donc, ce routeur, envoyer trois paquets plus petits à droite. Ce travail est coûteux. Demander à un routeur de découper des paquets et créer des entêtes, etc., est coûteux en temps d'exécution, en ressources. Et c'est pour cela que IPv6 ne la gère pas. Alors, comment IPv6 gère ce problème? On le verra plus tard. La question qui se pose Il y a plusieurs questions qui se posent pour gérer la fragmentation. Une première question est qui réassemble les paquets? Ce routeur découpe les paquets en fragments, mais qui les rassemble? Eh bien, c'est la destination finale qui réassemble les paquets. Deuxième question est comment cette destination finale peut matcher les différents fragments qu'elle reçoit? Il se peut, je vous donne un exemple, la source a envoyé deux paquets, un et deux. Le routeur a divisé chacun des paquets en trois fragments, donc on aura les fragments 1, 0, 1, 1, 1, 2 et 2, 0, 2, 1, 2, 2. Quand ces six fragments arrivent à la destination, comment la destination peut matcher 1, 0 avec 1, 1 avec 1, 2 dans cet ordre et puis 2, 0, 2, 1, 2, 2. Cela se fait grâce aux trois champs gris que nous avons vus dans l'entité-type qui sont identification, fragment, et début de fragment et drapeau. Alors, allons au transparent 43. Le champ identification est un champ sur 16 bits, donc 2 octets, qui contient un numéro unique par paquet envoyé par cette source. Bien sûr, comme ce champ a uniquement 16 bits, il y a 65 536 valeurs différentes. Donc, à un certain moment, ça va recycler, ça va faire un cycle. Mais ce cycle est suffisamment long pour qu'il n'y ait pas de problème de fragmentation. Autrement dit, la source envoie un paquet avec le même identifiant seulement peut-être 1 minute après, quand les fragments sont déjà arrivés. Le fragment de début spécifie l'offset du fragment. Est-ce que c'est le fragment 0, 1 ou 2? En réalité, c'est le premier bit des données qui se trouve dans ce fragment. Mais faisons simple, supposons que c'est 0, 1 ou 2. Donc, quand la destination reçoit des paquets, et bien avant ça, je voudrais finir. Il y a aussi un autre bit qui est très essentiel, c'est sur le transparent suivant 44, fragment à suivre, le bit 2, le deuxième bit parmi les trois bits de drapeau. Si ce bit est à 1, ça veut dire qu'il y a un fragment à suivre. Par contre, si ce bit est à 0, cela signifie qu'il est le dernier fragment du paquet. Avec ces trois informations, la destination peut réassembler tous les paquets. En effet, quand supposons que d'abord elle reçoit le paquet 1-1, elle voit que c'est un paquet, elle voit que c'est un fragment déjà, puisque le bit fragment à suivre est égal à 1, donc elle attend encore un fragment. Donc elle le met de côté, la couche IP le met de côté, ne l'envoie pas au protocole de transport. Elle reçoit encore un fragment, par exemple 1-2. 1-2, elle se rend compte tout de suite que c'est après 1-1, puisqu'elle porte la même identification 1. Donc 1-2, elle va le mettre dans son buffer après 1-1. Et puis, pour ce paquet 1-2, le fragment à suivre est égal à 0, ce qui signifie qu'il est le dernier paquet. Le dernier fragment, pardon. Donc il sait qu'il lui manque juste un fragment qui est celui 1-0. Supposons qu'après, il reçoit 2-0. Le fragment 2-0, il voit que 2, l'identifiant 2, n'est pas pareil que l'identifiant 1, donc il va mettre 2-0 dans un autre buffer. Et il voit aussi que le fragment à suivre de 6 bits est égal à 1. Donc, il y a encore des fragments à attendre. Donc, il se rend compte que 2-0, ce qu'il vient de recevoir, est un paquet qui n'est pas entier, c'est un fragment d'un paquet. Donc, il le stocke dans son buffer, la couche IP, en attente d'autres fragments. Ensuite, supposons que le fragment 1-0 arrive. Grâce à l'identifiant 1, il peut matcher, le mettre dans le buffer de 1. Et puis, une fois qu'1-0-1-1-1-2, ça remplit tout le paquet, il va le réassembler. Donc, elle va mettre les 500 octets multipliés par 3. Elle va créer un paquet de 1500 octets. Et ensuite, il va le remonter à la couche transport, au protocole qui est spécifié dans le champ protocole supérieur, comme on l'a déjà dit. Ensuite, supposons qu'au bout d'un certain temps, il me semble quelques secondes, deux secondes je crois, il n'a pas reçu le fragment suivant de 0. Dans ce cas, il rejette le paquet de 0, le fragment de 0, donc il ne traite plus le paquet 2 et il informe la source, il envoie à la source un paquet ICMP. Fragment perdu ou quelque chose comme ça. Voilà, donc je pense que j'ai parlé de toute la partie fragmentation. Je passe maintenant à la partie au transparent 47 où on voit une figure de Wireshark. Wireshark capture ce qui se trouve sur le réseau et affiche les valeurs des octets du paquet, mais il connaît des centaines de protocoles, donc il peut afficher en langue française ou anglaise la valeur de chacun des champs. Elle connaît les champs des entêtes, la valeur de chacun des champs. Là, par exemple, on voit que la version de IP qui est utilisée est égale à 4, puisque si vous regardez en bas, il y a 45, le début de bleu, et 4, le premier chiffre, ça correspond au 4. Le 5, si vous vous rappelez, c'est la longueur de l'entête. Si on multiplie par 4, ça fait 20 octets. Et effectivement, dans la fenêtre du milieu, on voit header length est égal à 20 octets. Ainsi de suite. Je passe maintenant à la partie ICMP transparent 49. Vous avez remarqué que IP permet de transférer des paquets d'un point à un autre, à la destination. Mais il peut y avoir des problèmes lors de cette transmission. On a vu destination unreachable, on a vu un problème de TTL, on a vu un TTP qui était mauvais, etc., etc. Donc, quand ces erreurs apparaissent, c'est ICMP qui est utilisé. Quand un routeur dans un réseau voit une erreur, il rejette le paquet et envoie un paquet ICMP à la source en mentionnant dans le paquet ICMP l'erreur. On va au transparent 51. Le message ICMP est transporté au-dessus d'IP, puisque pour qu'il arrive à la source, il faut que IP soit utilisé. Donc, les données de l'entête IP représente en fait le message ICMP. Le message ICMP, comme vous le voyez dans ce transparent, le premier octet représente le type et le deuxième octet le code associé à ce type. Le troisième champ sur deux octets est une somme de contrôle et le champ suivant, ce sont des informations complémentaires. Je vous donne quelques exemples de champs type qui vous permettent de savoir dans quel cas on utilise ICMP. Par exemple, si le champ type est égal à 8, c'est une demande d'écho, c'est ce qui est utilisé par le logiciel Ping. Et 0, c'est réponse à une demande d'écho, c'est ce que l'autre machine répond à Ping. 3, c'est destination unreachable, le champ type est égal à 11, cet été elle arrive à 0, etc. Pourquoi, même si je ne suis pas connecté au réseau, Ping 127.0.0.1 fonctionne? Réponse, rappelons-nous que 127.0.0.1, c'est la machine, ma propre machine. Donc, une fois que le paquet arrive à la couche IP de ma machine, elle remonte. Donc, c'est normal, je ne suis pas connecté au réseau, mais le paquet circule uniquement sur ma machine. Le logiciel Ping est très utile pour un administrateur réseau parce qu'il signifie que le réseau est fonctionnel. Toutes les machines intermédiaires, c'est-à-dire les routeurs et la destination, sont fonctionnelles. Si au lieu de ping, on avait utilisé par exemple le web, pour que le web fonctionne, il faudrait d'abord que l'autre machine contienne un serveur web. Donc on pourrait l'utiliser uniquement sur des serveurs web. Deuxièmement, si le serveur web est planté, eh bien on penserait que c'est le réseau qui est non fonctionnel alors que c'est le serveur web. Donc pour conclure, ping permet de travailler au niveau de base. Et il permet de savoir si le réseau est fonctionnel ou non. Donc, si, entre autres, si les tables de routage sont correctes. Mais sur Internet, en général, elles sont correctes. Je. Je passe au transparent 55 tout en bas. Vous voyez le code 1, type 11, code 1. C'est, si vous vous souvenez, c'est l'expiration du temporiseur de réception de tous les fragments. Si une destination a reçu un, n'a pas reçu tous les fragments, à un certain moment d'attente, après une certaine attente, elle rejette tous les fragments qu'elle a reçus de ce paquet et envoie à la source un message XMP avec type 11 et code 1. Enfin, le transparent 56 sur Traceroute. Traceroute, pour ceux qui ne le savent pas, est un logiciel qui permet à une personne qui se trouve sur une machine de connaître les routeurs par lesquels un paquet à une certaine destination passe. Donc, ça permet de connaître le chemin pris par un paquet. Pour cela, on aurait pu utiliser une option IP, qui est enregistrement de route. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, les routeurs de nos jours rejettent généralement les paquets qui ont des options IP. Pour contourner cela, il y a le logiciel Traceroute qui a été créé. Et Traceroute fonctionne de la manière suivante. Il envoie un paquet à la destination. Quand vous faites Traceroute A.com, par exemple, il envoie un paquet A.com où le TTL, donc le champ TTL de l'entité IP, est égal à 1. Ce paquet arrive sur le premier routeur et il sera rejeté puisque le TTL arrive à 0. Par conséquent, le routeur envoie un paquet XMP à la source et grâce à ce paquet, la source, c'est-à-dire la personne, connaîtra l'adresse IP de ce premier routeur. Ensuite, Traceroute envoie le même paquet mais avec un TTL égal à 2. Et ainsi de suite, et grâce, ensuite 3, 4, 5, et grâce à ces paquets successifs avec TTL qui s'incrémentent à chaque fois, la source, c'est-à-dire la personne, apprendra les adresses IP des routeurs qui forment le chemin à la destination. Je passe maintenant à la partie adressage IP, qui est une partie essentielle du cours, tout comme table de routage. Et je vais vous rappeler l'intérêt du routage. Si un seul réseau existait, donc si toutes les machines étaient connectées au même médium de communication, IP ne serait pas utile, on utiliserait MAC, un protocole de niveau MAC comme Ethernet, où lorsqu'une machine envoie un paquet, toutes les machines reçoivent ce paquet, mais uniquement celles dont l'adresse MAC de la carte réseau correspond à l'adresse MAC destination de l'entête MAC, uniquement celle-ci traite le paquet, puisqu'ils sont toutes les machines sont connectées au même réseau. Mais en réalité, nous n'avons pas un seul réseau. Internet est formé de plusieurs réseaux, une interconnexion de plusieurs réseaux. Donc, quand la source à la destination ne se trouve généralement pas dans le même réseau, pour que la source puisse quand même contacter la destination, il y a des intermédiaires qu'on appelle des routeurs qui connectent plusieurs réseaux. C'est-à-dire que un routeur a une interface vers un réseau et une autre interface vers un autre réseau, éventuellement d'autres. Alors que les machines classiques n'ont qu'une seule interface réseau et elles sont branchées, elles sont connectées à un seul réseau. Donc les routeurs permettent de connecter des réseaux. Et c'est là que IP intervient. Quand le paquet arrive sur un routeur, il sait vers quel routeur suivant acheminer le paquet, et ainsi de suite. Mais bien sûr, pour acheminer le paquet dans un réseau, on utilise toujours le protocole niveau MAC, par exemple Wi-Fi ou Ethernet. Mais encore une fois que le paquet a été acheminé sur le routeur suivant, le routeur suivant utilise IP pour connaître l'adresse IP du routeur suivant. Ensuite, il donne l'ordre à la couche MAC d'envoyer ce paquet à tel routeur suivant. Transparent suivant. Quand on entend routeur, mais qu'est-ce que c'est en réalité un routeur? Un routeur peut être un appareil dédié, qu'on appelle usuellement routeur, et qui a l'avantage d'être rapide et peut connecter plusieurs réseaux. Il peut être aussi une machine quelconque, comme un PC, où on installe les logiciels appropriés. Cela a l'avantage d'être pas cher. Transparent suivant. Si on réfléchit bien au travail du routeur, on arrive aux conclusions suivantes. Donc, qu'est-ce qu'il fait le routeur en fait? Quel est son travail? Eh bien, un routeur reçoit des paquets sur toutes ses interfaces. Et pour chaque paquet reçu, si c'est lui le destinataire final, je parle ici de la couche IP, il le traite. Sinon, il fait certains petits traitements sur l'entité IP du paquet, notamment décrément le TTL et recalculation de contrôle. Et si TTL égale 0, il efface le paquet et envoie un paquet XMP à la source. Et ensuite, grâce à la table de routage, il l'envoie à la bonne interface.